100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Se escuchara la voz de una España silenciada durante mucho tiempo. Hace muy pocos meses nadie cuestionaba la avalancha migratoria, el feminismo supremacista.
Bonjour à tous. Autant dire que tous les regards se tourneront sur ses performances lors des prochaines élections européennes en mai. Le parti d'extrême droite espagnol Vox a fait une entrée fracassante sur la péninsule ibérique en obtenant 12 sièges au Parlement andalou. C'était en décembre dernier. On connaît sa rhétorique anti-migrant. On connaît moins ses positions anti-féministes. C'est le reportage en Espagne de Diane Cambon.
C'est dans une salle de restaurant sans charme et au néon agressif qu'Alicia Rubio, l'idéologue anti-féministe du parti Vox, a choisi de faire son premier discours. Collier de perles et tailleur soigné, cette cinquantenaire s'est déplacée jusqu'à Navalmoral de la Mata, une petite ville d'Extrémadure de 18 000 habitants à 2 heures de Madrid, pour offrir un discours à un public majoritairement masculin. Son créneau, l'annulation de la loi sur la violence conjugale instaurée en 2004 sous le gouvernement socialiste de José Luis Zapatero. Il s'agit d'une loi intégrale qui inclut des mesures immédiates de protection et d'assistance aux victimes et des tribunaux spécialisés en compétences civiles et pénales. Pour la numéro 3 de ce jeune parti, cette loi va à l'encontre des hommes, tout comme le discours des féministes espagnoles.
On ne veut pas qu'elles nous représentent, on ne veut pas être à leurs bottes. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que revendiquent les féministes, car elles ne demandent pas plus de droits. Parce qu'ici, en Espagne, on bénéficie tous des mêmes droits. Ce qu'elles réclament, ce sont des privilèges qui affaiblissent les hommes en leur retirant leurs droits.
Au nom de l'égalité entre hommes et femmes, Alicia Rubio poursuit sa critique du mouvement féministe.
Le féminisme a commencé à perdre le Nord lorsque son discours a englobé les idées du marxisme et que la lutte des classes s'est transformée en une lutte des sexes et en une lutte contre les hommes. Ce que doit faire le féminisme, c'est disparaître. Et on doit recommencer à parler de citoyens, d'hommes et femmes, libres et égaux.
Debout, les yeux rivés sur Alicia, Mario approuve d'un hochement de tête chaque phrase de son discours. Pour lui, cette loi n'est pas juste avec les hommes.
Je suis d'accord avec elle, car aujourd'hui, cette loi est très répressive. Comme elle dit, ça va à l'encontre des citoyens. Si l'homme est en tort, il faudra le poursuivre, mais souvent, il n'y a pas de véritable motif pour le poursuivre. Comme elle le dit si bien, il peut y avoir une plainte, et l'homme sans défense se retrouve en prison sans aucune enquête préliminaire.
Cette loi, pionnière en Europe, est une des avancées majeures dans la lutte pour protéger les femmes contre la violence domestique. L'an dernier, 47 femmes ont été assassinées par leur conjoint. Pour Sarah, une militante féministe de la première heure, qui travaille auprès des lycéens contre la culture machiste et la prévention de la violence conjugale, l'heure est plus que jamais à la mobilisation pour défendre les acquis.
Ils sont en train de transformer le discours féministe. Ils veulent faire croire que c'est une lutte entre femmes et hommes, et ce n'est pas vrai. Il faut descendre dans la rue pour démonter ce discours. On ne peut pas négocier nos droits, on ne peut pas perdre ce que nous avons obtenu si difficilement.
Antonio, la quarantaine, se sent mal à l'aise avec ces hommes qui bombent le torse, défendant les valeurs machistes. Pour lui, la lutte pour l'égalité va au-delà de la séparation des sexes.
Moi, ce qui m'intéresse dans cette lutte féministe, ce n'est pas seulement la défense de vos droits, les femmes, qui sont très justes, mais aussi la défense des droits des hommes. Car nous, les hommes, on a tout à gagner aussi à défendre ces droits.
Mais Antonio est aussi conscient que le féminisme mal compris peut avoir un effet pervers auprès de la junte masculine.
Il faudrait qu'il y ait un discours masculin du féminisme, car certains hommes ne comprennent pas cette lutte. Et les risques d'être séduits par le discours beaucoup plus radical et viscéral, celui de la peur, tenu par Vox.
Cette formation d'extrême droite qui a obtenu de très bons scores aux élections régionales andalouses de décembre aspire à battre tous les records au scrutin des municipales et européennes du 27 mai prochain. Avec le féminisme, la lutte contre l'immigration et la défense de la nation espagnole sont les deux autres chevaux de bataille de Vox.
Et la place des femmes dans l'art, il y aurait sans doute des centaines de musées fantômes à découvrir avec toutes ces artistes féminines que l'histoire a oubliées. À Vienne, le musée du Belvédère, où l'on peut admirer le baiser de Gustav Klimt, connu dans le monde entier, on leur a consacré une exposition. On peut y découvrir les pionnières de l'art autrichien qui ont marqué la période 1900-1938 avant d'être sciemment mises de côté par les nazis. Visite avec Céline Béal.
Les visiteurs sont accueillis par une statue en marbre blanc. Une jeune femme nue, présentée comme une sorcière, assise au sol et qui se coupe les ongles de pied. Cette œuvre de Teresa Feodorovna Rice a fait scandale en 1895. Une femme ne pouvait pas être sculptrice professionnelle, ni réaliser un nu aussi impudique, et encore moins tailler une matière dure et noble comme le marbre. L'exposition Ville des femmes présente 260 œuvres de femmes artistes, comme elle, qui ont fait fi du conservatisme autrichien. De la fin de siècle aux années 30, on découvre qu'elles se sont illustrées dans tous les formats, y compris des sculptures en marbre, des tableaux en grand format et des nus pas forcément érotiques. Monika Weber est guide. Elle montre les unes après les autres les œuvres novatrices des pionnières de l'art au début du siècle. Particulièrement à partir des années 30, elle ne cadre pas avec l'image de la femme au foyer imposée par les nazis. Leurs œuvres sont détruites ou oubliées dans des greniers.
Au XXe siècle, ce sont surtout des hommes qui ont écrit l'histoire de l'art, comme l'histoire en général, avec comme résultat qu'ils se sont focalisés sur les hommes. Par exemple, après la guerre, on s'est concentré sur Gustav Klimt, mais pas sur Brontia Köhler-Pinel.
Il aura fallu un regard d'intérêt de chercheuse pour l'art des femmes, ces 20-30 dernières années, pour que cette artiste, pourtant membre de l'élite artistique viennoise en son temps, soit redécouverte. Et les Viennois s'avèrent tout à fait intéressés, comme Michael. Il est venu au Belvédère avec une amie, guide touristique professionnelle comme lui.
Nous avons été très surpris de constater que nous ne les connaissions pas, alors que nous nous intéressons pas mal à l'art. On se dit maintenant que beaucoup de ces œuvres ne devraient pas être remises dans des entrepôts après l'exposition temporaire. Elles devraient plutôt être transférées dans l'exposition permanente.
Et peut-être qu'un jour les noms de Brontia Köhler-Pinel ou Teresa Feodorovna Rice seront aussi connus dans le monde que ceux de leurs homologues Egon Schiele et Gustav Klimt.
Un monde sans argent liquide, pour être plus précis, sans pièces, billets ou même sans carte de crédit. Les paiements dématérialisés via le téléphone portable prennent une part de plus en plus grande et pourraient représenter 25% des paiements dans 5 ans en Europe. Et l'exemple vient des pays de l'ancien bloc communiste. En Ukraine, par exemple, les consommateurs plébiscitent de plus en plus ce mode de paiement car ils ont été échaudés par les dévaluations massives de leur monnaie nationale et la crise bancaire. Aujourd'hui, le pays est le 4e pays au monde concernant le paiement électronique. Reportage à Kiev de Sébastien Gobert.
Au détour d'un couloir, Marta Tsimbalouk franchit la double porte d'accès au métro. C'est l'heure de pointe, une longue file d'attente s'étire devant le guichet de vente des jetons qui font office de tickets à Kiev. Marta Tsimbalouk ne regarde même pas la queue et se dirige droit vers les tourniquets. Elle présente son smartphone et passe directement pour aller attraper son train.
C'est une évolution très intéressante. J'ai toujours trouvé que l'argent liquide était bien plus sexy que les paiements par carte. Plus fiable aussi. Et depuis quelques mois, je paie mes jetons de métro avec mon téléphone. Et je trouve ça super pratique et très divertissant. J'ai l'impression que c'est mon téléphone qui paie pour moi. C'est amusant.
Au-delà de l'aspect divertissant, c'est une vraie révolution à laquelle Marta Tsimbalouk contribue. Dans le métro de Kiev, 40 millions de jetons ont été réglés à partir d'appareils mobiles depuis 2016. Une étude de Mastercard montre que 72% des Ukrainiens effectuent régulièrement des transactions à partir de leur téléphone portable, ou en tout cas veulent en avoir la possibilité. Chaque mois, il y a 25% de plus d'appareils mobiles, des smartphones, des smartwatches, des bracelets électroniques, qui se connectent à des services de paiement en ligne. Vira Platonova est directrice de la société Mastercard en Ukraine.
Aujourd'hui, 80% des terminaux bancaires ont l'option sans contact. Notre but, c'est de pouvoir aider les Ukrainiens à dématérialiser leurs échanges pour passer moins de temps à réaliser une transaction et se faciliter la vie.
Dans les années qui ont suivi l'effondrement de l'URSS, le système bancaire ukrainien, et post-soviétique en général, a été discrédité par des scandales à répétition. De nombreux établissements ont siphonné l'argent des épargnants, fait faillite du jour au lendemain, en échappant à toute sanction pénale. Ces drames ont provoqué des scènes d'inflation spectaculaires. Ces dernières années, en revanche, c'est tout l'inverse. Le système bancaire ukrainien a été épuré sous supervision du FMI, les finances publiques assainies et l'économie a amorcé sa dématérialisation. Petre Kumpfanzel est le chef de Private Bank, la première banque du pays.
Ça montre le niveau d'innovation et de développement en Ukraine. C'est l'une des transformations technologiques les plus rapides en Europe, en l'occurrence en termes de services bancaires. C'est aussi important car il faut inciter les gens à utiliser des technologies qui poussent à se passer d'argent liquide.
Private Bank a elle-même une histoire. L'établissement aurait servi à blanchir 2 milliards de dollars pour le compte de l'un des principaux oligarques du pays avant d'être nationalisé. Le procès est encore en cours. Ses ennuis ne l'ont pas empêché de développer des services inédits pour déclarer ses impôts, payer ses factures ou acheter des billets de train. Aujourd'hui, la banque multiplie les campagnes de publicité pour expliquer les bienfaits et la sécurisation des paiements sans contact. La révolution technologique se heurte néanmoins aux réalités locales. Un tiers des Ukrainiens n'utilisent pas encore Internet régulièrement, ce qui limite le développement de la vente par correspondance. 37% des Ukrainiens n'ont pas de compte en banque à cause de cette méfiance persistante vis-à-vis du système bancaire. En dehors des grandes villes, on peut donc avoir des soucis à payer sans contact. Marta Tsimbalouk.
Ça ne marche pas partout. Une fois, je suis allée dans une petite boutique et j'ai sorti mon téléphone pour payer. La vendeuse m'a regardée comme si j'étais une extraterrestre.
La moitié des cartes de crédit du pays ne sont utilisées que pour retirer du liquide au distributeur. Et tout aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus la transaction est importante, moins elle passe par la banque. Marta Tsimbalouk.
Pour acheter un appartement, par exemple, il faut venir avec ses liasses de billets en dollars chez le notaire. Ça ne va pas changer de sitôt. Le téléphone, ça va pour acheter un jeton de métro à 25 centimes d'euros.
Les vieilles habitudes durent, mais les chiffres ne mentent pas. La digitalisation de l'économie est bel et bien en marche. C'est l'évolution politique générale du pays qui déterminera l'avenir de ce bond technologique.
Et sur les bords de la Baltique, la Lituanie espère aussi tirer son épingle du jeu dans les fintechs, ces startups spécialisées dans les technologies financières et le paiement. Plusieurs grands noms de la filière s'installent déjà à Vilnius, un pied-à-terre européen essentiel en cas de Brexit. Sur place, les explications de Marielle Vitureau.
Une branche de Revolut, la banque numérique britannique en Lituanie, une licence de monnaie électronique pour Google en Lituanie aussi. Dans le domaine de la finance en ligne, le pays va bientôt devenir aussi connu que son voisin balte l'Estonie l'est pour le développement du numérique et l'utilisation des nouvelles technologies. D'ailleurs, la Lituanie talonne son voisin en termes de hausse des investissements dans les jeunes pousses. Depuis que la Lituanie délivre des autorisations pour les startups spécialisées dans la finance en 2017, 110 sociétés se sont déjà implantées en Lituanie et tout autant attendent au portillon. Depuis quelques années, les autorités lituaniennes, ministère des Finances et banque centrale en tête, poussent en avant ces startups de la banque et de la finance, voie de l'avenir économique de la Lituanie. En l'espace de 2 ans, le secteur a créé 700 emplois, lit-on dans une lettre envoyée au président du Parlement pour lui faire prendre conscience de l'importance de ce secteur. Mais qu'est-ce qui attire donc les sociétés en Lituanie? Des procédures ultra rapides, un réseau internet parmi le plus performant d'Europe et un visa spécial startup pour faciliter l'installation dans le pays. En faisant la promotion de la finance en ligne de manière assez active, la Lituanie surfe aussi sur la vague Brexit. Début 2019, la Banque centrale a reçu plusieurs dizaines de demandes émanant de sociétés britanniques cherchant à garder un pied en Europe. Ce développement fulgurant a aussi un corollaire, comment assurer la sécurité des sociétés investissant dans la banque en ligne. Dans son récent rapport public, les services de renseignement ont mentionné qu'ils surveillaient activement ce secteur. Moneval, l'organe du Conseil de l'Europe qui supervise la lutte contre le blanchiment d'argent, loue l'arsenal législatif de la Lituanie, mais précise que le pays doit tout de même intensifier ses efforts pour mieux comprendre les risques du blanchiment de capitaux.
Et c'est Bruxelles, le monde appelle.
Un grand ratage, le quartier européen de Bruxelles et ses buildings en verre fumé ou en béton est-il à l'image d'une Europe qui perd ses repères, c'est-à-dire son âme? Telle est la thèse de Luc Lamant, qui a été pendant 6 ans le correspondant de Mediapart à Bruxelles. Aujourd'hui, il sort un livre, Bruxelles, chantier, une critique architecturale de l'Europe aux éditions Luxe. Il a expliqué à Catherine Roland en quoi les bâtiments européens desservent le projet politique.
Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, l'architecture et le bâti, pour poser la question de l'imaginaire européen. C'est très difficile souvent d'intéresser beaucoup de monde aux questions européennes. Souvent on dit « Ah, les élections européennes, c'est ennuyeux, c'est compliqué, c'est technique, c'est lointain, etc. » Et je trouve qu'il y a une question aussi de l'imaginaire qui est en jeu. Une des questions pour la sortie de crise de l'Europe, c'est justement un peu de réveiller cet imaginaire et d'imaginer en fait justement par des politiques culturelles, par un rapport au bâti, une autre manière de construire un imaginaire européen.
Dans ces immeubles, il y a déjà des fissures. Est-ce que c'est pas un symbole d'ailleurs de ces constructions déjà fissurées alors que ça fait pas si longtemps que ça a été bâti?
Il se trouve qu'au moment où je suis arrivé, c'était donc on était vraiment en plein dans la crise grecque. On savait pas si la Grèce allait rester dans la zone euro et on a découvert à peu près à ce moment-là dans la plénière du Parlement européen, alors la partie du Parlement qui n'est pas à Strasbourg mais à Bruxelles, des fissures qui sont apparues. Et il y a une manière comme ça de correspondance entre les fissures du bâtiment et les fissures du projet européen qui à la fois est extrêmement effrayante et en même temps je trouve que c'est très stimulant pour réfléchir aussi à ce qui est en train de se passer. Et en fait le bâtiment du Parlement européen, si on fait un peu l'historique de ça, en fait on a construit à partir de la fin des années 80, début des années 90, quelque chose qui était en fait un centre de congrès. Pendant toute la période du chantier, des travaux, du travail des architectes, on n'a pas du tout dit qu'on construisait un Parlement européen, parce qu'il y avait Strasbourg et qu'on ne voulait pas faire de l'ombre à Strasbourg. Et au dernier moment, bam, on a dit, voilà, on a un Parlement européen à vous livrer, alors que ça devrait être le cœur, évidemment, de la machine européenne. Et je trouve que c'est assez révélateur des failles du projet européen.
Le politique n'a pas du tout investi, finalement, l'architecture. Et d'ailleurs, vous prenez un exemple, hein, c'est sur le projet de refonte du rond-point Schuman. Donc c'était un architecte belge qui avait remporté le concours. Absolument. En 2010. Finalement, son projet a été rejeté par manque d'audace. Et puis aussi peut-être parce que on pensait à un lieu pour laisser les gens manifester.
Exactement. Dans le cas du rond-point Schuman dont vous parlez, il y a un espace qui était prévu en partie pour être des manifestations. Et c'était en plein moment des débuts de la crise, après 2010. Et du coup, il y a eu une espèce de peur de certains dirigeants de se dire « mais on n'a pas forcément envie d'avoir sous nos fenêtres des contre-pouvoirs populaires, etc. »
Est-ce que vous pensez comme le maire de Charleroi, le tonitruant Paul Magnette, qui n'y va pas par quatre chemins, hein, lui il dit « le Parlement européen, c'est un déni d'architecture, un déni de tout, il faudra tout raser un jour. »
J'avoue que j'aime bien. Moi, l'impression que j'ai eue en couvrant le Parlement européen, par exemple, c'est que de fait, la plénière qu'on suit, c'est pas forcément là où ça se passe, c'est pas forcément là où les débats politiques sont les plus intéressants, mais plutôt dans les arrière-salles, les salles de commission, où les conseillers, les assistants travaillent à des accords. Et c'est là où on peut mesurer le poids de la France, l'influence des Allemands, etc. Et moi j'aimerais bien, par exemple, un Parlement qui reflète cette mécanique, cette manière qu'on a à faire des accords au Parlement européen, pour aider aussi les citoyens à comprendre comment ces institutions fonctionnent.
Le problème c'est que on ne sait pas si les dirigeants le veulent vraiment, parce que ce serait une forme de transparence, c'est ce que vous dénoncez aussi. Le manque de transparence.
Par exemple, le Conseil européen, les fameux sommets des chefs d'État et de gouvernement qui sont effectivement les plus puissants à Bruxelles. Et en même temps, on ne sait jamais ce qui se dit autour de la table. Et c'est évidemment un problème démocratique. Il y a un nouveau bâtiment qui a été inauguré en 2016, qui s'appelle le bâtiment Europa, autour du rond-point Schuman dont on parlait tout à l'heure, et qui est pour le coup extrêmement transparent, et qui joue cette carte à la transparence.
Oui, en même temps, l'architecte qui a conçu Europa dit que c'est un non-bâtiment, un anti-bâtiment.
Oui, c'est ça qui est aussi étonnant, c'est que les architectes qui construisent là-bas sont aussi très conscients du raté du quartier européen. Alors, je fais parler des eurodéputés aussi qui détestent ce bâtiment, qui le voient comme une forme d'enfant emprisonné, métaphore comme ça de l'emprisonnement. Alors, on voit que c'est très difficile de toute façon aujourd'hui de construire quelque chose d'un peu ambitieux architecturalement parce que il y a énormément de chantiers, de bureaux qui ont été enclenchés, qui fait qu'on est peut-être allé déjà trop loin. C'est pour ça que l'idée de Magnette, le maire de Charleroi, est intéressante, l'idée de raser certains bâtiments pour en refaire.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast, puis Accent d'Europe. On se retrouve dès demain. Restez à l'écoute de RFI.